VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Nigeria, un an jour pour jour que les 219 lycéennes de Chibok ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Et elles n'ont toujours pas été retrouvées, souligne Florent Gel, responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, au micro de Claire Morin-Gibourg.
C'est un triste anniversaire pour tout le Nigeria, démontrant que le combat contre Boko Haram continue encore aujourd'hui et que malgré le succès des élections présidentielles au Nigeria, il reste encore beaucoup à faire pour vaincre militairement, mais aussi socialement Boko Haram.
Un an sans avoir aucune nouvelle, est-ce qu'on peut encore avoir espoir que ces jeunes filles soient toujours vivantes?
On l'espère. Alors il y a des rumeurs comme quoi elles auraient pu certainement être exécutées. Selon les enquêtes que la FIDH a mené, c'est pas forcément totalement probant, puisque souvent les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont enlevées par Boko Haram sont souvent mariées de force, deviennent souvent aussi des esclaves sexuels ou des esclaves au quotidien des forces fondamentalistes. Mais il y a tout lieu de croire et de penser qu'un certain nombre d'entre elles sont toujours en vie et sont toujours retenues contre leur volonté par les adeptes de Boko Haram.
On a l'impression que Boko Haram cible vraiment les femmes.
C'est effectivement un des objectifs de ces mouvements djihadistes, c'est de cibler les femmes, car ils considèrent que les femmes doivent être mariées de force, gérer un foyer, ne pas avoir d'éducation. Et dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, effectivement, toutes les femmes, et particulièrement les femmes éduquées, sont une cible de Boko Haram. Et donc évidemment, les femmes qui vont à l'école sont une cible prioritaire.
Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui au Nigeria et ailleurs dans le monde en l'honneur des captives. Le président élu nigérian Mahamadou Buhari s'est engagé à faire tout son possible pour les retrouver, mais il dit aussi ne pas pouvoir promettre de les libérer. Burkina Faso, tous les courants politiques burkinabé, y compris celui favorable à l'ex-président Blaise Compaoré, doivent participer aux élections d'octobre. C'est ce qu'a indiqué lundi l'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou, des précisions avec Bagassi Koura.
Tulinabo Salama Mushinge, ambassadeur américain, a déclaré hier à Ouagadougou que c'est aux électeurs de décider qui seront leurs élus. S'ils n'aiment pas tel ou tel candidat, ils ne vont pas voter pour lui. Le nouveau code électoral promulgué vendredi exclut des élections les proches du président déchu. Ces scrutins prévus en octobre doivent doter le pays de nouveaux dirigeants suite à la transition mise en place après la chute de Blaise Compaoré en octobre dernier. Le ministre délégué à la coopération régionale, Moussa Nebié, a répondu que la loi électorale, je cite, ne vise que les personnes qui ont attenté à la Constitution jusqu'au bout de l'obstination. Fin de citation. Les anciens partis comme le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, anciens partis au pouvoir, ne sont pas exclus du jeu politique. Et le ministre de l'administration territoriale, Auguste Denise Barry, précise qu'une quinzaine de proches de l'ex-président, dont quatre anciens ministres et un ancien premier ministre, ont été interpellés pour malversation après des audits et certains prévenus ont été remis en liberté.
Au Togo, ce mardi manque le cinquième jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de la fin du mois. Cinq candidats sont en lice, dont le président sortant et le chef de file de l'opposition. De Lomé, le reportage de Kai Lawson.
Les candidats ont 14 jours pour séduire l'électorat qui est composé de 3 509 258 électeurs. Jean-Pierre Fabre, le candidat de combat pour l'alternance politique CAP 2015, dit se battre pour l'alternance.
Le meilleur candidat, c'est Jean-Pierre Fabre. Votez pour lui, parce qu'il incarne l'alternance.
Les militants du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD espèrent la victoire au soir du 25 avril. Le parti du candidat Mohamed Tchassona Traoré, au-delà des meetings populaires, veut miser sur le porte-à-porte.
On ira dans les marchés, dans les maisons pour convaincre les gens.
L'espoir, la jeunesse et la vitalité sont des concepts que le nouvel engagement togolais veut mettre en avant pour faire mouche.
Nous sommes dans une situation de David contre Goliath. Nous restons aussi réalistes en se disant, quelle que soit l'issue de ces élections, le net doit sortir de ces élections en étant un grand parti en mesure de se projeter sur 2025.
L'agriculture a une place importante dans le programme de société de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Et pour le démontrer, le candidat de Hadi a débuté sa campagne dans la région agricole du Togo. Nous écoutons le professeur Aimé Gogué.
Le café représentait une grande culture pour le Togo. Malheureusement, depuis plusieurs années, les performances de la filière caféière et de cacao aussi ont beaucoup baissé, de telle sorte que leur importance dans l'économie a diminué.
Le leitmotiv du président sortant, Ford Yassingbe, est le changement. D'aucuns diront le changement dans la continuité, car il sollicite l'électorat pour un troisième mandat. Henriette Amedjogbe-Kouévi, responsable de la zone 3 Lomé commune du parti Union pour la République unie.
Toute la population a eu le temps de voir les réalisations accomplies par le président Faure.
Éducation, santé, économie, agriculture et sécurité se retrouvent dans les projets des 5 candidats avec quelques nuances près. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, polémique entre le gouvernement et l'Union nationale d'opposition au sujet des violentes manifestations dimanche à Libreville après l'annonce du décès de l'ancien leader de l'opposition gabonaise André Mba Obam. Le point avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Ses partisans le savaient très malade. Tel un coup perré, l'annonce du décès a provoqué des heurts à Libreville. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, Guillemette Ramapangou, accuse l'opposition d'être derrière ces casses.
Nous avons des indices qui nous font penser sérieusement que ces gens ont agi sur les ordres des hommes politiques. Eh bien, même les hommes politiques, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille ou leur gabarit, ben, ces gens aussi, si toutes les informations sont réunies qu'ils sont derrière cette affaire, ben, nous allons pouvoir faire respecter les lois en vigueur en République gabonaise.
Des accusations immédiatement rejetées par Zakari Mboto, cofondateur de l'Union nationale. À Libreville, Jean-Rovis Tabani, pour VOA Afrique.
A noter que l'ambassade du Bénin a été incendiée pendant les manifestations, ce qui a conduit Libreville à exprimer ses regrets à Cotonou dans un communiqué hier. Relations États-Unis-Afrique, le gouvernement américain s'est engagé à appuyer le projet de l'Union africaine de mettre sur pied à Addis Abeba l'équivalent des centres américains de contrôle des maladies d'Atlanta. C'était l'objet du mémorandum signé hier ici à Washington par le secrétaire d'État américain John Kerry et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Les précisions d'Eddie Sango.
Les chefs de la diplomatie américaine a saisi l'occasion pour évoquer l'aide des États-Unis à l'Afrique, notamment les déploiements des soldats américains et l'octroi de plus d'un milliard de dollars pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Un appui qui se poursuivra avec les nouveaux projets de l'Union africaine, a dit John Kerry.
Dans le cadre du mémorandum, le CDC va offrir une aide technique pour offrir de l'aide aux groupes de réponse ainsi qu'un centre d'urgence et nous allons offrir des bourses pour des épidémiologues africains qui pourront offrir leurs services auprès du nouveau centre à Addis Abeba.
La présidente de la Commission de l'Union africaine a exprimé l'espoir que les nouveaux centres représentent pour l'Afrique.
De manière globale, la décision de l'Union africaine de se doter d'un centre africain de contrôle des maladies vise à renforcer les capacités des pays d'Afrique pour lutter contre les maladies, partager l'information, se doter de capacités collectives, non seulement contre Ebola, comme vous l'avez dit, mais également contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies.
Les mémorandums signés à Washington permettant de rendre rapidement opérationnels les centres d'Addis Abeba, a ajouté Mme Dlamini-Zuma.
On reste dans la capitale fédérale américaine. Les États-Unis s'insurgent contre la perspective d'une vente de missiles anti-aériens S-300 russes à l'Iran. Téhéran, par contre, s'en réjouit. Anne Albertson.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses objections hier dans un appel téléphonique à son homologue russe Sergei Lavrov. Ce dernier est d'avis que l'accord préliminaire avec Téhéran sur son programme nucléaire rend inutile la mesure de 2010 interdisant les exportations de missiles vers l'Iran. Mettre fin à cette interdiction pourrait entraver les efforts en vue de lever les sanctions internationales contre l'Iran, a averti Josh Earnest, secrétaire général de la Maison-Blanche. Notre opposition à ces ventes est ancienne et publique. Nous pensons que ces ventes n'aident en rien, a fait savoir de son côté le porte-parole du Pentagone, le colonel Stephen Warren. Pour sa part, l'Iran se félicite de la décision russe.
Pour terminer, en Somalie, des militants du groupe islamiste Al-Shabaab ont attaqué aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur à Mogadiscio, la capitale. Des témoins font état de morts et de blessés, mais aucun bilan officiel de l'attaque. La police, pour sa part, dit qu'il y a eu une énorme explosion et des coups de feu dans le bâtiment. Rappelons que les Shabaab ont également attaqué ce mois-ci l'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya voisin. Une opération qui avait fait 148 morts pour la plupart des étudiants kényans.
Soyez au cœur de l'info.